les rendez-vous de l'UNIS en partenariat avec Accès aux Drieux Combaluzier et Bâtisanté sur Radio Immo.
Voilà, on va bientôt se quitter, mais on voudrait faire une dernière émission ici, au Pavillon Dauphine, pour les rendez-vous de l'UNIS Grand Paris. On est ravis d'être avec vous. Je rappelle que tous les podcasts que nous avons enregistrés peuvent être disponibles sur l'application de Radio Immo, sur les réseaux sociaux également. Et merci d'être avec nous et de suivre Radio Immo. Bonsoir Henri Musicazo.
Bonsoir Sylvain.
Merci d'être avec nous. Henri Musicazo, vous êtes le président de l'IMSI, vous êtes également conseiller de plusieurs entreprises, également très impliqué sur le plan de la politique professionnelle, puisque vous connaissez, on peut dire, quasiment tout le monde, vous êtes incontournable dans le métier. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la façon dont vous appréhendez effectivement les marchés immobiliers et la politique immobilière. Vous y êtes depuis très très longtemps et merci d'être avec nous. Vous êtes également l'animateur de la soirée ici au rendez-vous de l'UNIS auquel vous participez régulièrement. Et Olivier Safar, président de l'UNIS Grand Paris, merci d'être resté avec nous.
Avec grand plaisir.
Henri Musicazo. Henri, moi je voudrais qu'on fasse une chose, si c'est possible, de prendre un peu de hauteur sur finalement une espèce d'anachronisme dans les marchés immobiliers, parce qu'effectivement souvent on parle du marché immobilier et vous avez très souvent rappelé qu'il y a des marchés immobiliers et que la réalité parisienne ou francilienne n'est pas celle qu'il y a dans le Perche, dans le Pays Basque par exemple, ou dans l'Est de la France. On parlait finalement de ce geste du législateur de dire, et puis c'est plutôt salutaire, de dire on va rendre décent les biens, décent l'occupation, à l'heure où le pays traverse une grave, très grave crise du logement, avec une mèche dont on ne sait pas finalement de quel bout on va l'allumer, et qui, aujourd'hui, quand on voit les chiffres des sans-domicile fixe, 330 000, il y a un an, lorsque Christophe Robert a publié le rapport de la Fondation Abbé Pierre, qu'on voit 2 700 000 Français sur des listes d'habitat pour avoir un logement décent, social, incroyable, depuis plus de 5 ans. Bref, et on voit ces chiffres augmenter. Quand vous voyez que le marché de la location, le marché du locatif privé s'est rétréci quasiment de moitié, puisque le nombre d'annonces est absolument freiné, que vous voyez moins de 40, moins 50% de la construction de logements neufs dans certaines régions, et d'autres régions, c'est beaucoup plus grave. Qu'on voit effectivement des mutations, même si ça reprend un peu de couleur. Une obligation supplémentaire, un discours de politique générale qui est rempli de poncifs et de généralités. Qu'est-ce que ça a aujourd'hui provoqué chez vous comme réaction, vous qui êtes un spécialiste des politiques publiques?
Bon, je commence par le discours de politique générale. Alors, je ne voudrais pas qu'on imagine que le lien affectif, historique que j'ai avec François Bayrou, voilà, j'ai été son premier collaborateur à Paris quand il était jeune parlementaire, le seul à l'époque. Je ne voudrais pas qu'on croie que ça déforme mon appréciation. Ce n'est pas le cas. D'abord, moi, j'ai eu des échanges très récents avant qu'il ne discoure devant le Parlement et que je voudrais dire qu'il est très sensible à la question du logement et que je vais être tout à fait franc. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il ne l'était pas du tout à ce degré-là, et même il ne l'était pas vraiment. Voilà. Alors, bien sûr, le fait d'être un maire, d'un président de métropole, lui a fait toucher du doigt des réalités que vous avez rappelées, hein, c'est-à-dire les demandeurs de logements sociaux, privés, tout ça, il le touche du doigt, dans sa permanence. Bon. Donc, parlons déjà de sensibilité à la question, elle est très forte. Logement social, logement privé à l'identique. Deuxièmement, il a eu un discours qui fait 15 lignes, hein, dans un ensemble fleuve où il fallait parler de 1000 choses. Moi, je le lis pas si sévèrement, peut-être parce que justement j'ai eu une discussion préalable qui m'a rassuré. Je crois qu'il prend la mesure du besoin urgent et impérieux de relancer la machine, les machines à produire, à vendre, à échanger les biens, marché de la transaction, rénovation énergétique, etc.
Oui, mais dans le même temps, il écrit aux socialistes, au bloc socialiste, oui, à l'Assemblée, oui, qui va augmenter les droits de mutation.
Mais oui, mais alors,
on peut pas dire que ce soit.
Mais non, mais
une...
je pense ça, Sylvain. Oui, je pense, voilà, ça. Ouais. Ma tribune publicité oui, de ce matin,
oui, absolument,
chez votre confrère de Capital, portée là-dessus.
On l'a
d'ailleurs, pas d'état d'âme. Bon, maintenant, on va être clair. Il est entre des contraintes épouvantables et contradictoires. Il faut réduire le déficit. Ça veut dire que le budget du logement, à l'arrivée, il va être voté, j'espère, dans les heures qui viennent. Eh ben, il ne sera pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'il manquera 2 milliards oui. ou 3 milliards.
Vous êtes d'accord, hein ?
Bien sûr, okay, évidemment. Voilà. Okay. Et qu'il a demandé à tous les ministères de trouver 1 milliard okay. mécaniquement.
Okay. Bon. Pas plus d'espoir pour ce Premier ministre-là que pour les autres.
Un peu plus, parce que je trouve qu'à l'arrivée, ce qui va sortir, un prêt à taux zéro, par exemple, ouvert à la maison individuelle, mais qui a sacrifié l'ancien c'était avec travaux.
C'était le cas.
Oui, oui, mais bon, c'était le cas, mais.
Avec le gouvernement Barnier.
Le compteur a été remis à zéro, donc moi, j'ignore pas le travail fait avant, on est d'accord. Une mesure fiscale pour inciter à l'achat de logements neufs et relancer la construction. En matière d'innovation énergétique, des enveloppes à peu près sauvegardé, il y a des débats qui ne sont pas terminés au moment où on parle.
Bon. Et
encore une fois, c'est loin d'être idéal, mais le besoin de réduire ce déficit, d'être un bon élève, parce qu'autrement, ce qui va nous arriver, c'est une augmentation des taux d'intérêt, et il n'y a pas un professionnel de l'immobilier en France qui souhaite une augmentation des taux d'intérêt. On est plutôt en train de les voir baisser, on est tous contents, mais on doit montrer que le déficit...
Brandir, je vous comprends, hein. Brandir... Au même moment où d'ailleurs Éric Lombard baisse le taux du livret A de 3% à 2,4%, oui. salué d'ailleurs par la ministre du Logement, parce qu'il y a un effet...
Bien sûr, et par les HLM, bien sûr.
Expliquer. On ne peut pas ne pas ne brandir que finalement les problématiques des taux de la BCE et donc de la capacité d'emprunt de la France au détriment de 2 700 000 foyers qui sont aujourd'hui dans une urgence
Alors,
absolue.
Oui, mais bon, sur les 2 millions... Sylvain, la réduction de la réduction du loyer de solidarité, qui est une ponction hein, sur les HLM, on va pas détailler ici, et parce que Valérie Létard, la ministre, s'est battue avec la complicité là-dessus de François Bayrou.
Ça va être fait, ça, finalement, c'est les fameux 200 millions annoncés.
Oui,
c'est vrai.
Ah, oui, 200 millions d'oxygène, on va dire, pour les HLM.
Ouais.
Donc, il y aura 4-5 mesures. Moi, j'en aurais voulu 6 ou 7, et j'aurais voulu qu'il n'y ait pas d'augmentation des droits de mutation. C'est quoi l'histoire des droits de mutation ? C'est que les départements qui ont mal géré, moi je le dis comme je le pense, hein, parce que quand on a des revenus exceptionnels, on connaît ça dans les entreprises ou chez les particuliers, bah faut mettre un peu de côté, parce qu'autrement on se fait rattraper par les impôts 18 mois plus tard, ou 2 ans après. Bon, on a tous connu ça dans nos vies. Donc les départements, j'aurais attendu d'eux un peu plus de gestion rigoureuse. Ils ont eu, quand les transactions ont été fastes, l'ont été pendant 15 ans hein, quasiment, beaucoup d'argent, et puis tout d'un coup, les agents immobiliers le voient, les notaires le voient et les départements le voient, coup d'arrêt, un tiers du marché qui passe à l'as. Et là, les départements disent, mais nous, comment on fait pour remplir nos missions ? On a quand même envie de leur dire, moi je l'ai dit et écrit, vous auriez peut-être pu mettre un petit peu d'argent de côté. Bon, n'empêche que le Premier ministre se retrouve face à ça, avec des enjeux politiques aussi, parce que les collectivités locales, c'est derrière le Sénat, etc. Et que s'il ne met pas de l'huile dans les rouages, demain... On a encore un déséquilibre, voilà.
Je vous adore.
Et ce gouvernement disparaît.
Henri, je vous adore, je vous aime, vous le savez. Mais je ne peux pas vous laisser dire ça pour les départements.
Oui.
Parce que les départements, comme les collectivités locales, ont pour objectif d'être à l'équilibre en termes budgétaires, vous le savez.
C'est une obligation.
C'est une obligation. Et je vois mal comment un État déficitaire chroniquement, ayant célébré la dépense comme une espèce de pierre angulaire, viendrait donner des leçons au département de gestion, je la trouve un peu courte.
Non mais justement, l'État
moment,
ne le fait pas, c'est moi qui le fais.
Au même moment où sur le ROB, vous avez les règles de gestion des budgets,
oui.
des collectivités locales, que ce soit sur les intercos ou les communautés d'agglos, ont vu fondre comme neige au soleil leur dotation, on leur a ôté la taxe d'habitation, et là vous êtes en train de me dire, finalement on va mettre à contribution les départements au moment où précisément les départements comme les collectivités locales ont été étranglés
non,
par
non, mais
ce
justement,
gouvernement.
Non, Sylvain, justement, le gouvernement accepte...
Moi, je comprends leur réaction.
Le gouvernement accepte la hausse des droits de mutation qui va essentiellement aux départements.
Oui. Dire que c'est pour faire plaisir aux départements. C'est pas les départements qui disent il faut absolument qu'on trouve des ressources. Vous nous avez enlevé des ressources.
Mais on peut dire ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que on pourrait, moi, comme citoyen, alors là, je parle comme citoyen, moi, ou
je
comme homme du logement.
Non, mais je comprends.
Moi, je suis critique. Je dis que tout de même, dire au plus mauvais moment aux Français, ben on va vous augmenter un petit peu ces droits de mutation, un petit peu, c'est rien du tout. C'est pas rien du tout. C'est 500 euros par tranche de 100 000 euros de transaction. Bon, voilà. Hein. Gardons-nous les discours de riches. J'achète une maison de 200 000 euros et ben je m'en prends pour 1 000 euros de plus de facture. voiture. Bon, c'est pas rien, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. C'est le prix de l'équipement, d'une cuisine, etc. pour beaucoup de ménages. Bref, c'est difficile à digérer. On peut comprendre les collectivités qui, en effet, ont ces besoins. On peut aussi dire ils auraient pu mettre davantage de côté, moi je le dis.
Qui ont un budget à l'équilibre.
Est-ce qu'elles ont toutes bien gérées, Sylvain ? Je me permets de dire que je demande à voir. Mais en tout cas, le Premier ministre et le gouvernement, eux, disent on va concéder ça au département parce que au titre des missions qu'ils accomplissent, missions sociales, la petite enfance, le handicap, le grand âge, etc., on ne veut pas qu'il n'ait pas le moyen de le faire. Donc je comprends ça. Je dis juste, c'est quand même pas une bonne nouvelle dans les mesures logement.
Ah, c'est certainement pas
voilà.
Une bonne
alors même si on va
mais
dispenser
si
les primo accédants.
Autrement, il l'aurait fait autrement.
Alors oubliez pas une chose.
Olivier Safar, réaction.
Voilà,
merci.
Oubliez pas une chose. Les droits de mutation, c'est uniquement pour l'ancien. Pourquoi ? Parce que sur le neuf,
ils sont réduits
très fortement. Ouais. Donc globalement, vous mais avez
y a plus de
une ponction.
Mais attendez, il n'y a plus de construction. Bah, on a tué les promotions immobilières.
La question, c'est qu'on avait un petit rebond sur la partie de l'ancien. Si on commence à augmenter les droits de mutation, ce rebond va s'arrêter. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Moi, j'aurais préféré que l'on puisse accélérer toute la partie de neuf, parce que en accélérant le neuf, vous accélérez les primo-accédants et ceux qui vont acheter des appartements, libérer d'autres appartements qu'ils avaient en locatif, et pour nous permettre justement de reprendre un cercle vertueux
de relocation. C'est le principe de la fluidité.
Et là,
absolument.
Aujourd'hui, vous l'avez bloqué, parce qu'en bloquant cette partie, en augmentant les droits d'un autre côté, alors c'est vrai qu'on a une petite baisse du taux d'intérêt, mais si vous avez en contrepartie une augmentation des droits de mutation, vous allez vous retrouver soit avec un effet nul, bien soit sûr. Avec un coût supplémentaire. Et c'est pas dans le bon sens.
Alors les primo-accédants, oui. Soyons honnêtes, au moment où on parle, c'est pas encore définitif tout ça. Hein.
Qu'est-ce qu'ils vont avoir ?
Un amendement sénatorial soutenu par le gouvernement exclut les primo-accédants de cette hausse de droits de mutation de 0,5 points.
Pour le premier achat.
Voilà, pour le premier achat dans l'ancien ou le neuf.
Sur sa résidence principale.
Exactement.
Ils n'entreront pas dans ce champ d'application.
À ce stade, c'est ce qui est projeté. Okay. C'est, il faut le préciser quand même.
J'ai envie de vous poser cette question. Encore une fois, prenons de la hauteur. Comment on peut réparer un appareil structurel avec les marchés, notamment par exemple les professions comme la construction, l'aménagement, les promoteurs et plein de métiers aujourd'hui qui souffrent notamment. Et d'ailleurs, je précise également que les statistiques sur la santé des études notariales est très préoccupante. Combien de temps il faudrait pour réparer une crise ? Et si vous deviez demain, voilà, faites abstraction de ce que nous a dit François Bayrou, malgré toute l'amitié que vous lui portez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Je vous donne une piste de réflexion, j'aimerais que vous nous expliquiez.
Ouais.
Valérie Létard s'est adressée au Parlement, a dit qu'elle allait créer une commission, monter une commission parlementaire, dans le but d'étudier ce qui pourrait s'apparenter à un statut du bailleur privé.
Elle va nommer un parlementaire ou un expert.
Alors même où tous les travaux de préparation ont déjà été faits, je précise. Hein.
J'ai participé à beaucoup d'entre eux.
Pourquoi désigner un parlementaire alors que tous les travaux d'impact qu'a fait Benjamin Darmouni, Olivier Safar, l'UNIS, vous êtes d'accord, vous-même Henri, Henri, etc. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un truc, votre avis ?
Bon, alors, d'abord, elle ne peut pas aujourd'hui, et donc ça ne sera pas dans le projet de budget là, qu'on vient d'évoquer, mettre ça. Bon.
On peut espérer pour 2026, mais enfin, il n'y aura peut-être plus...
L'enjeu serait, il n'y aura peut-être plus, la France sera là, j'espère, et les bailleurs aussi, et les administrateurs de l'air, bon, j'espère.
Je vous confirme, c'est ce que nous a dit Donald tout à l'heure.
Bon, ce chantier n'ayant pas été seulement ouvert, et sauf des rapports en effet multiples et très sérieux, le boulot n'est pas fait. Il faut l'imaginer pour 2026. 2025, on va oublier. Pourquoi elle crée un nouveau responsable de chantier ? D'abord, on va être très clair, il y a un enjeu politique. Pour que le soufflet ne retombe pas, qu'on continue à en parler, et politiquement, pour faire du lobbying auprès de Bercy, elle à nos côtés, je vous le dis quand je pense. Elle va avoir cet outil-là. C'est de la tactique. Parce que qu'est-ce qu'il y aura dans le rapport plus que ce qu'on sait ?
Je vous suis.
Moi, je pense que le prochain rapporteur, son travail sera assez rapide.
C'est tactique.
Et deuxième, c'est tactique.
Elle nomme une commission pour des raisons tactiques.
Et elle sait.
D'accord.
Je vous dis la vérité, j'ai eu un échange samedi matin avec elle, voilà. On a parlé de ce sujet-là et de quelques autres qu'on a évoqués, budgétaires. Elle sait que les services de Bercy, pas Éric Lombard, les services de Bercy n'auront de cesse que de vider de sa substance tout statut, tout projet. Donc elle veut encore bétonner, si je puis dire.
J'ai compris.
Voilà l'histoire. Donc ce statut, on en a un besoin absolument impératif. Mais ce que je vois, dans les 5 ans, comment on va relancer les choses? Il y a deux façons. Il y a un peu d'effort budgétaire. On va sortir avec un budget du logement. Allez, il va faire quoi 32, 33 milliards si on l'a connu à 47.
Non mais si je vous dis qu'on en sortira avec l'alternance politique, c'est un peu cynique, hein, mais bon...
Ce qui peut se passer politiquement, je sais pas. Moi, en tout cas, je dis que l'immobilier a besoin. Il est fondé sur la confiance, l'immobilier. Hein. Les copropriétaires qui doivent faire des travaux, les
absolument.
Acquéreurs, la confiance.
Absolument.
Et donc, moi, ça me va bien. On va être très clair. C'est pas mon lien avec François Bayrou. Le sujet est pas là. Il a fait sa carrière. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui est aux affaires, des ministres et une ministre du logement très compétente, très appréciée. Eh bien, de grâce qu'on ait un peu de stabilité, qu'il puisse un petit peu travailler tranquille pendant les mois qui viennent. Pourquoi pas, certains émettent l'idée, jusqu'aux prochaines échéances électorales, on peut rêver. Bon. Même si la motion de censure, elle est là au-dessus de sa tête tous les quarts d'heure. N'empêche que des aides budgétaires, notamment pour solvabiliser la demande et tirer la production, c'est-à-dire que le prêt à taux zéro, ben, c'est des ménages qui vont dire « Tiens, moi j'avais envie d'acheter, aujourd'hui je peux. Alors je vais voir le promoteur, je vais voir le constructeur de maison individuelle. » Ça suffira pas, parce que l'appareil de production, il est tellement abîmé. Il y a des milliers d'entreprises qui ont disparu. Hein. Les chiffres sont là, ils sont officiels, ils sont terribles, ils font froid dans le dos. Heureusement, il y en a qui sont encore là. Mais ceux qui sont encore là, les promoteurs, pour relancer des opérations, c'est-à-dire racheter un terrain, etc., il faudrait que la demande soit un raz-de-marée, ça ne sera pas un raz-de-marée. Il va falloir aussi raccourcir les délais et simplifier. Ça, c'est dans le projet de Bayrou. Alors, on nous a déjà fait le coup de la simplification. Mais... ça se rapproche. L'idée d'une loi spéciale. Alors, il a mis le concept quand il est allé à Mayotte. Alors, certains disent, il n'est pas allé assez tôt, etc. Mayotte, état d'urgence, etc.
Une loi d'exception.
Il a dit, on va faire une loi d'exception, loi spéciale, on dit comme on veut. On va faire un appel à projet pour qu'il y ait de l'innovation, parce qu'il y a aussi ça, en termes de matériaux, de process, qu'on construise plus vite et moins cher. Et là aussi, pour avoir échangé avec lui, sur le mode de ce qu'on a fait au village olympique. Bon, on est à l'UNIS, la présidente de l'UNIS est présidente de la CCI du 93, elle connaît bien le sujet. Le village olympique a été construit en 2 fois moins de temps que n'importe
absolument.
Quel chantier. Et ça a été le plus grand chantier du monde pendant des mois.
Ce qui prouve que quand on veut,
voilà.
Eh ben on peut.
On peut, et on peut, attention.
Ce qui prouve que si Bercy partageait votre idée, il doterait suffisamment.
Bien sûr, sans affaiblir la qualité du projet, la sécurité, etc.
Absolument.
Et sans même de dépassement budgétaire.
Exactement.
Donc, cet idéal, on va devoir y accéder et pouvoir dire aux promoteurs, et je sais que j'espère qu'il va y avoir un projet de loi là-dessus, Valérie Létard est à la manœuvre, qu'on puisse dire aux promoteurs, aux constructeurs de maisons individuelles, écoutez, on va vous simplifier ceci, cela, alléger les instructions de permis de construire, machin, les permis à double détente, réversibles, c'était dans la loi pour les Jeux Olympiques, ça a échappé, il y a eu toute une partie urbanisme simplifié. Il faut qu'on fasse ça, on est à l'état d'urgence, parce qu'autrement, on dit ce qu'on veut, on est tombé à 158 000 logements construits, c'est-à-dire des chiffres qui nous renvoient 40 ans en arrière, pour en revenir à 300, 350, 400 000, et pour que les Français soient pas malheureux, en moins de 10 ans, on n'y arrivera pas si on ne met pas ce booster-là.
Exactement.
Voilà.
On a un deuxième booster à rajouter, c'est la difficulté du zéro artificialisation net.
Oui, c'est vrai.
Je voudrais simplement rappeler qu'aujourd'hui, ça s'applique normalement en 2030, sauf qu'on a certaines communes qui l'appliquent déjà. Et nos promoteurs ne peuvent pas trouver les terrains nécessaires pour lancer des opérations, parce que le but du jeu, c'est quand même d'avancer. Donc aujourd'hui, un, ils n'ont pas de terrain. Deux, il n'y a pas d'acquéreurs. Si les acquéreurs reviennent, il faut qu'il y ait les terrains. Il faut qu'il y ait cette simplification. Et là, il faut aller sur tous les bouts de la chaîne, et pas uniquement sur cette partie de simplification de la construction, de financement parce qu'on baisse les taux de crédit, mais aussi effectivement sur la possibilité de trouver des terrains. Et ça, c'est un autre point important. Et ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que les banques, elles peuvent suivre aujourd'hui, ils ont une capacité à prêter. Et cette capacité à prêter, on voit les erreurs qu'ils ont commis il y a certaines années en prêtant trop sur certaines choses, c'est fini. Aujourd'hui, ils ont très peu de risques, très peu d'insolvabilité de propriétaires qui achètent des appartements.
Merci.
Ça, c'est quand même un point important. Les vannes pourraient s'ouvrir de façon plus importante, notamment en diminuant le taux d'apport demandé.
Alors, merci de le dire. Merci de le dire, parce que le marché français n'est pas un marché volatile, n'est pas un marché qui structurellement présente les mêmes défauts, par exemple, que les marchés à taux variable, notamment, je parle des marchés anglo-saxons, et je vais même enfoncer le clou, si vous voulez bien, c'est le principe même du droit de propriété, que les attributs du droit de propriété, même si on voit qu'aujourd'hui, on veut glisser vers l'emphytéose de plus en plus, c'est-à-dire vers, effectivement, la dissociation du bâti du foncier, mais à la limite...
C'est une voie.
Mais ce qui est très intéressant, ce que vous dites, c'est que les sûretés qui ont été prises par les banques, avec le système bancaire français qui est unique en soi, finalement, permet cette stabilité, et dire finalement qu'il y a un effet spéculatif par rapport à ces marchés-là est une imposture. Il faut le dire, ça aussi.
C'est une réalité.
Et on a su trouver de l'argent pour le quoi qu'il en coûte. Hein. On a su trouver de l'argent, effectivement, et de faire une loi d'exception. Vous savez pourquoi on a fait la loi d'exception pour les Jeux Olympiques ? Parce qu'on ne voulait pas que la France passe pour un bonnet, le dernier de la classe.
Ouais.
Et on a voulu, d'un point de vue égo, il faut le dire, mais c'est, pourquoi pas ? Dire, bah, nous, les Français, on est capable de faire quelque chose. La preuve, on a réussi à trouver un cadre législatif vraiment, permettant de le faire. Mais ils ont fait autre chose aussi dans le village des athlètes, c'est de faire le permis à double détente.
À double détente.
Bien sûr.
C'est-à-dire que c'est extraordinaire de voir un permis, finalement, qui instruit deux fois, avec une réversibilité de l'ensemble du bâti. Je trouve que le programme est exceptionnel.
Alors, n'oublions pas que certaines communes ont joué le jeu, d'autres ne le jouent pas.
On est d'accord.
Et ça, c'est une vraie réalité aujourd'hui.
Alors, vous savez quoi ? Puisqu'on est dans ce genre de discussion, et je pense que les enjeux politiques sont suffisamment importants pour que ça dépasse finalement les égos des uns comme des autres, moi je vous propose tous les deux de nous retrouver à un débat avec, par exemple, Anaïs Glamour, qui est président du Conseil national de l'habitat et qui n'a pas la langue dans sa poche. D'ailleurs, effectivement, parce que vous êtes toujours une personnalité qualifiée au CNH.
Ah, je suis membre du CNH, absolument.
Il est membre du CNH.
Voilà,
oui.
Membre du. Bon, pourquoi je lui pose la question ?
L'UNIS aussi est membre du CNH.
Bien
membre du CNH. Donc,
sûr.
On va
alors,
intervenir de la
moi,
même façon.
Voudrais, et puis, ce qui serait vraiment idéal, c'est qu'on organise aussi la venue de Valérie Létard.
Oui.
On espère avoir sur le plateau. Elle nous a répondu favorablement. Je sais qu'elle est très proactive et elle sait, d'ailleurs, même si on est très critique, qu'on a soutenu son action parce que de loin. Elle est l'une de celles qui maîtrise le mieux ce dossier. Un immense merci, Henri Buzicazo.
Merci beaucoup.
Toujours agréable d'échanger avec vous, la passion qui anime Henri Buzicazo. Président de l'IMSI, également un immense merci à Olivier Safar.
Merci, Sylvain.
Avec mention spéciale pour vous également sur la fidélité, qui est une vertu cardinale, parce que vous êtes fidèle à notre média depuis quelques années. Au nom de la rédaction de l'ensemble de nos équipes, on est très heureux de vous avoir.
C'est un passionné aussi.
Merci beaucoup.
C'est un passionné aussi.
Voilà, je voudrais aussi
l'immobilier
également...
est notre passion à tous, et je crois qu'il faut le répéter et le dire.
Remercier vos équipes, hein, et aussi les élus qui s'implique au quotidien, François-Emmanuel Borel et également Benjamin Darmoni que nous avons vu tout à l'heure. Ça va mieux en le disant parce que dans un monde un peu chahuté, les vertus comme la fidélité, la loyauté sont des choses, même si elles paraissent un peu obsolètes, qui nous font beaucoup de bien dans notre pays. On en a bien besoin. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Vous pouvez récupérer l'ensemble des podcasts, pour les rendez-vous de l'UNIS, du Grand Paris, sur les applications mobiles qui vont bien, mais également sur Spotify et sur Deezer, sur l'application de Radio Imo. Vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Les URL, vous savez, sous le podcast, si vous voulez avoir des informations sur l'IMSI, par exemple, ou voir ce que fait l'UNIS du Grand Paris, vous allez simplement cliquer sur le site internet et vous avez toutes les infos. Vous prenez bien soin de vous, on se retrouve bientôt sur nos antennes.
Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec Axéo Drieux-Combalusier et Bâti Santé sur Radio Immo.